Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient dans un instant. Vos questions à la rédaction d'RFI, c'est l'occasion, vous le savez, de nous poser toutes vos questions pour mieux comprendre l'actualité. S'il vous manque des clés, des repères, en écoutant RFI, en écoutant les informations, eh bien, n'hésitez surtout pas. Le standard est ouvert tout au long de la journée. D'ailleurs, n'attendez pas le début de l'émission pour nous contacter. Vous pouvez le faire à tout moment. On a besoin, évidemment, de connaître vos questions en amont pour contacter nos experts ici au sein de la rédaction, nos envoyés spéciaux, nos correspondants. Un seul numéro de téléphone, 09 693 693 70. Si vous êtes à l'étranger, 33 9 693 693 70. Sans oublier les réseaux sociaux. Et puis dans 30 minutes, nous lancerons le débat sur la mobilisation des Peuls au Mali. Plusieurs associations dénoncent la multiplication des exactions contre les membres de leur communauté. Elles affirment que les civils Peuls sont injustement considérés comme des djihadistes. Leurs villages sont donc attaqués par l'armée. En tout cas, l'ancien président de l'Assemblée national Ali Noum Diallo, qui coordonne toutes les associations Peul au Mali, affirme que si l'État ne fait rien, des groupes armés Peul pourraient être rapidement tentés par les thèses indépendantistes. Alors que doit faire l'État malien? Comprenez-vous d'ailleurs cette mobilisation de la communauté Peul? Vos témoignages nous arrivent au standard. Nous vous donnerons donc la parole dans 30 minutes. 33 9 693 693 70. Allez, vos questions à la rédaction. Abirou nous appelle de Djougou. C'est au nord-est du Bénin. Bonjour Abirou.
Oui, bonjour Juan.
Bienvenue et merci de votre fidélité, on vous écoute.
Ah, bonjour RFI, bonjour à tous les auditeurs. Et j'ai remarqué que l'Angleterre veut construire un mur dans le Pas-de-Calais pour empêcher aux migrants de passer sur son territoire. Donc du coup, j'aimerais savoir comment les autorités françaises ont-elles réagi face à cette décision.
Ah, c'est vrai que la Grande-Bretagne a annoncé la construction de ce mur pour empêcher les migrants de grimper sur des camions à destination de la Grande-Bretagne. Alexis Bedu du service France est à mes côtés. Bonjour Alexis.
Bonjour Juan, bonjour Abirou.
Un mur donc de 4 mètres de haut, 1 km de long. Il sera érigé sur la route qui borde la jungle. La jungle, c'est ce bidonville qui accueille à Calais des migrants qui vivent dans l'espoir de passer clandestinement en Grande-Bretagne. Comment le gouvernement français a-t-il réagi? Et plus largement, quelles ont été les réactions en France?
Contrairement à la Grande-Bretagne, ce mur n'a pas tellement fait polémique en France. Le gouvernement ne s'est pas exprimé sur cette annonce. Ce mur était prévu de longue date. Il se réalise. Tout semble normal pour l'exécutif français. Et qu'importe s'il s'agit du premier mur frontière construit dans l'Hexagone. Non, c'est plutôt localement, Juan, que l'annonce a fait débat.
Oui, pratiquement tout le monde à Calais est contre ce mur.
Et notamment la maire de la ville, Natacha Bouchard. Pour elle, la construction d'un mur n'a plus lieu d'être puisque le démantèlement rapide de la jungle a été confirmé par Bernard Cazeneuve, c'était il y a 10 jours. Ce mur est donc incohérent et incompréhensible pour la maire de Calais. Du côté des associations, même son cloche, mais les arguments sont différents. Ce mur est une verrue de plus dans le paysage. Le président d'une association me disait Calais était la ville de la dentelle. Maintenant, c'est la ville des barbelés et des murs en béton.
Ouais, et ce qu'il faut dire également, Alexis Bedu, c'est que ce mur est même un risque supplémentaire pour les migrants.
Oui, je m'explique. Pour passer en Angleterre, les migrants provoquent des embouteillages sur la rocade qui mène au port de Calais. Avec ces ralentissements, ils peuvent monter clandestinement dans des camions et tenter leur chance. Avec ce mur autour de la rocade, ils iront désormais sur l'autoroute A16 pour provoquer des bouchons. Et là, c'est forcément plus dangereux. Les véhicules ne roulent pas à 90, mais à 130 km/h. En bref, selon les associations, on ne fait que repousser le problème un peu plus loin avec ce mur et en plus, on augmente le risque d'accident.
Alors, les travaux ont commencé, ils devraient se terminer avant la fin de l'année. La France ne participera pas au financement de ce mur.
Non, ce sont des entreprises françaises qui construiront le mur, mais c'est la Grande-Bretagne qui réglera la note. 2,7 millions d'euros au total. L'argent sera prélevé sur la contribution britannique à un fonds conjoint franco-anglais. Ce fonds de 20 millions d'euros a pour vocation de renforcer les infrastructures de sécurité à Calais.
Ouais. Abirou, vous avez une autre question?
Oui. Et la deuxième question, c'est, je voulais savoir à quand le vrai démantèlement, comment on appelle, de cette jungle de Calais qui ne cesse de poser le polémique partout.
Ouais. Vous en parliez un instant, Alexis Bedu. Récemment, Bernard Cazeneuve, hein, le ministre de l'Intérieur, a annoncé un démantèlement rapide. Juste pour planter le décor, pour nos auditeurs qui nous écoutent très loin à travers le monde, la jungle, c'est comme une petite ville. Ce sont quoi, 9 000
migrants. 9 000 migrants, oui. Et vivent actuellement voilà, dans des conditions extrêmement précaires. Il y a des cabanes, des cabanes en bois, des cabanes de tôle, énormément de tentes posées les unes à côté des autres. Alors la zone sud de la jungle a été démantelée en mars dernier. Au moins 1000 migrants y vivaient. 80% se sont repliés vers la zone nord du campement, donc à quelques mètres. Mmh. Les autres sont allés à Grande-Synthe, au nord, à une vingtaine de kilomètres à peu près. Le démantèlement de la zone sud, lui, il est prévu très rapidement. Bernard Cazeneuve l'a confirmé. Pas de date précise pour l'instant, mais ça sera avant la fin de l'année.
Mais pour démanteler, il faut évidemment reloger.
Oui, ça sert à rien de détruire la jungle sans reloger les migrants. Sinon, ils iront s'installer un peu plus loin et d'autres campements sortiront du sol. D'ici la fin de l'année, 8000 places d'hébergement d'urgence doivent être créées. Bernard Cazeneuve ne veut pas d'un Sangha de piste. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Sangha, Juan. C'est cette commune juste à côté de Calais. En 99, un centre d'accueil avait ouvert, mais très vite plein à craquer. Et après la fermeture de ce centre, on avait assisté à un éparpillement des réfugiés. Bernard Cazeneuve ne veut pas la même chose avec la jungle de Calais.
Affaire à suivre. Merci beaucoup Alexis Bedu d'être venu répondre à Abirou, qui nous appelait donc de Djougou au Bénin, 10h16 à Paris. Vos questions à la rédaction. Nous accueillons Christophe Paget du service international. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Des questions sur le bras de fer entre les Philippines et la Chine. On en a beaucoup parlé la semaine dernière lors du sommet de l'ASEAN. Bonjour Allégresse.
Bonjour Monsieur Juan Gomez.
Vous êtes à Kinshasa, soyez le bienvenu.
Merci beaucoup. Au fait, dernièrement, sur vos antennes, j'ai suivi que Manu a accusé Pékin de créer une île artificielle en mer de Chine. Et c'est pourquoi j'aimerais savoir si les accusations de Manu sont-elles fondées et... Y a-t-il des sanctions possibles contre la Chine ?
Alors, les Philippines qui dénoncent effectivement un plan secret de la Chine pour construire une île artificielle sur le récif de Scarborough en mer de Chine. On sait, Christophe, que Pékin revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale. Est-ce que les accusations des Philippines sont fondées ?
Eh bien, pour tout dire, on ne sait pas. Les Philippines ont donc sorti mercredi dernier des photos qui, selon elles, prouvent que Pékin veut construire une île artificielle dans ce récif des Scarborough à 230 km de ses côtes. On y verrait des bateaux chinois en train de s'approcher de cette zone, des bateaux capables, selon Mani, de draguer du sable et autres activités nécessaires à la construction d'une île artificielle. La Chine dit qu'elle n'en fait absolument rien sur ce récif d'Escarborough. Un responsable américain affirme de son côté qu'aucune activité anormale n'a été détectée sur la zone, pas plus de marins ou de gardes-côtes chinois que ces derniers mois.
Et en même temps, ce n'est pas très surprenant que des bateaux chinois approchent de ce récif d'Escarborough.
Oui, puisque en 2012, Pékin en avait pris le contrôle après un face-à-face avec la marine philippine. Elle a depuis déployé des filets autour de l'île et elle bloque les bateaux de pêcheurs philippins qui voudraient passer. Donc, on le sait depuis longtemps, la Chine est là. Mais si Pékin compte construire une île artificielle qui permettrait de mettre en place une base militaire ou autre piste d'atterrissage d'avions, comme elle l'a par ailleurs déjà fait sur d'autres îles, là, ce serait un problème. C'est la ligne rouge que le président américain Barack Obama a fixée à la Chine.
Ouais, pourquoi ce serait la ligne rouge ?
Parce que, comme l'expliquait la semaine dernière sur notre antenne le spécialiste François Godemont, la revendication chinoise sur le récif de Scarborough est postérieure à la signature par la Chine d'une déclaration sur un code de conduite maritime avec les pays de l'ASEAN en 2002. Jusqu'ici, la Chine n'a construit des structures artificielles, agrandi des atolls ou des îles, que sur des zones qu'elle occupait déjà avant 2002. Ce serait donc un signe là que la Chine ne respecte pas sa parole. Car la Chine, vous l'avez dit, revendique l'ensemble de la mer de Chine orientale, ce qui provoque de fortes tensions depuis des années avec des pays comme Taïwan, le Vietnam, la Malaisie, Brunei. Et depuis quelques années, Pékin a une politique très agressive vis-à-vis de ces pays. Elle construit ses îlots artificiels sur les récifs ou sur les îlots disputés. Ce sont des constructions qui pourraient éventuellement lui permettre de mener des opérations militaires loin de chez elle, sachant que tout cela se déroule dans des eaux qui ont une forte valeur économique. Chaque année, y transitent pour 5 milliards de dollars de marchandises.
Oui, la zone est hautement stratégique. Allégresse nous demandait si la Chine pouvait être sanctionnée.
Alors, il y a eu un jugement début juillet de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye que Mani avait saisi. La Cour a jugé que les revendications de Pékin sur la mer de Chine orientale n'avaient aucun fondement juridique. Une décision que Pékin a immédiatement rejetée, même si cette décision n'a pas juste une valeur consultative, hein, bien une valeur juridique devant la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Pour le moment, il n'y a pas eu de suite à cet arbitrage et à la réaction de la Chine, mais le président américain Barack Obama a souligné lors de la réunion de l'ASEAN la semaine dernière que cet arbitrage faisait date et était contraignant. Pour autant, il n'a pas cité la Chine.
Ouais, il faut quand même préciser que Barack Obama est quand même sorti de sa réserve sur ce dossier.
Parce que c'est un des gros dossiers de ces deux mandats, justement, ce retour des États-Unis en Asie du Sud-Est, un redéploiement militaire et économique pour faire pièce à l'appétit d'ogre de la Chine qui veut contrôler ses eaux pour toutes les raisons que l'on a citées. Pékin estime que les États-Unis n'ont pas à donner leur avis sur le sujet. Mais si la Chine s'implante sur le récif Scarborough, ce n'est, comme on l'a dit, qu'à 230 km des Philippines où les Américains ont une présence militaire. L'ASEAN, dans son communiqué final la semaine dernière, parle des tensions en mer de Chine, mais pas du jugement de la Haye, car en fait les pays de l'organisation avancent en ordre dispersé à cause de ce lobbyisme de Pékin auprès de certains de ces pays. Donc on le voit, Juan, c'est un dossier qui dure depuis des années, qui est en constante évolution, mais tout le monde reste prudent, personne ne veut que toutes ces tensions, tous ces incidents, car il y en a, se transforment en conflits armés qui pourraient faire boule de neige dans la région, d'autant qu'il implique deux superpuissances.
Effectivement. Christophe Paget, reste avec nous. Une autre question sur les Philippines, cette fois-ci elle concerne le nouveau président Ricardo Duterte. Bonjour André.
Oui, bonjour.
Vous êtes à Abidjan, Côte d'Ivoire.
Oui, c'est ça.
On vous écoute.
Alors, le président philippin a injurié le président américain Barack Obama. Mm-hmm. Alors, ça peut savoir pourquoi ces injures et puis quelles pourraient être les incidences à court et à long terme, voilà, sur les relations diplomatiques entre les deux pays.
Oui, bien sûr, on comprend tout à fait. Christophe Paget, on rappelle quand même que le président des Philippines a traité Barack Obama, je cite, fils de pute, des propos qu'il a tenus en public, filmés par la télévision. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs qu'il utilise un tel vocabulaire. Pourquoi a-t-il insulté Barack Obama?
Eh bien, c'est la grande question. Hein. Pourquoi Duterte a-t-il insulté le grand allié américain des Philippines? En fait, Barack Obama a bien cerdé Rodrigo Duterte quand il dit « Je ne prends pas ces propos pour moi parce que manifestement, c'est une expression qu'il utilise régulièrement pour qualifier le pape ou d'autres personnes », ajoutant que c'était pour lui une habitude, une manière de parler. Il est vrai que le président philippin, vous l'avez dit, utilise cette expression, hein, fils de pute, je cite moi aussi, très régulièrement pour qualifier les gens qui ne sont pas de son avis.
C'est devenu une sorte de tic de langage hein, dans sa bouche.
Tout à fait, mais de là à parler de cette manière du président des États-Unis, c'est quand même franchir un sérieux pas. Alors du coup, devant l'écho qu'a rencontré l'incident dans la presse philippine et puis dans la presse internationale, Obama, qui, on l'a vu, avait d'abord tenté de prendre la chose à la plaisanterie, a annulé la rencontre qu'il devait avoir avec Duterte en marge du sommet de l'ASEAN dont on parlait, même si Duterte, hier encore, a dit qu'en fait, c'est lui qui avait décidé de ne pas rencontrer Obama. Alors, les deux présidents s'étaient quand même parlé en tête à tête pendant une poignée de minutes, histoire de montrer que le lien entre les deux pays n'est pas abîmé. Le montrer, entre autres, à la Chine, une fois de plus, puisque les Philippines sont un allié important des États-Unis dans la région face aux appétits de Pékin. Mais cet incident est d'autant plus troublant qu'il a eu lieu au moment où les Philippines avaient besoin du soutien de Washington sur cette histoire de récif de Scarborough. Ce n'était donc pas très malin de la part de Duterte d'insulter son allié, mais ça fait partie du personnage, une sorte de machisme et de virilité affichée, histoire de montrer qu'il ne va pas se laisser mener par le bout du nez par les États-Unis. Alors rappelons que lorsque Duterte a insulté Barack Obama, il réagissait aux critiques des États-Unis sur sa politique anti-drogue qui a fait 3000 morts en un peu plus de 2 mois.
Ouais, c'est vrai que les méthodes employées par le président Duterte dans la lutte contre le trafic de drogue sont également critiquées par de nombreuses ONG, mais aussi par les Nations Unies. André nous demandait, et on va faire bref, quelles pouvaient être les conséquences finalement de ces insultes sur les relations diplomatiques entre les deux pays?
On va faire bref, hein, franchement aucune. les États-Unis ont besoin des Philippines, c'est d'ailleurs un des succès d'Obama que les Philippines aient ouvert à nouveau plusieurs de leurs bases aux soldats américains qui en avaient été chassés à la fin de la guerre froide, et il n'est pas question de remettre cela en question. Le secrétaire d'État américain John Kerry a d'ailleurs souligné que la relation entre les deux pays était toujours ferme et très forte. Mais si ces insultes ne vont rien provoquer, elles sont peut-être le signe de quelque chose qui existe déjà. Il ne faut pas oublier que le président philippin considère que Manille doit parler avec Pékin, alors que son prédécesseur, Benigno Aquino, était opposé à toute discussion avec la Chine. Et le mois dernier, Duterte avait dépêché un envoyé spécial en Chine pour améliorer les relations entre les deux pays. Les États-Unis vont donc avoir affaire maintenant à un allié philippin beaucoup plus remuant que par le passé. Exemple, et j'en terminerai avec ça, hier Duterte a annoncé qu'il avait ordonné à toutes les forces spéciales américaines présentes dans le sud de l'archipel de quitter la zone. Elles sont là pour conseiller l'armée philippine dans son combat contre les rebelles musulmans. Mais selon Duterte, leur présence ne fait qu'envenimer la situation.
À suivre donc. Merci beaucoup Christophe Paget d'être venu répondre à André qui nous appelait d'Abidjan. Il nous reste encore 5 minutes, le temps d'accueillir Ignace. Bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous nous appelez également d'Abidjan. Vous êtes nombreux hein, ce matin de Côte d'Ivoire au standard des RFI. On vous écoute.
Oui, merci bien. J'ai récemment appris que la Commission de Bruxelles exige un dédommagement des consommateurs européens suite au scandale des moteurs truqués de Volkswagen. Mm-hmm. À ce sujet, je veux savoir pourquoi les consommateurs européens n'ont pas encore été dédommagés, alors que les Américains et Australiens l'ont déjà été. Et je veux aussi savoir si Bruxelles a véritablement le pouvoir de sanctionner Volkswagen.
Ouais, Clémence Denavy, bonjour.
Bonjour.
Journaliste au service économie d'RFI, c'est vrai que la Commission européenne veut aider les consommateurs européens à obtenir un dédommagement après ce scandale qui éclatait quasiment...
Mais il y a plus d'un an maintenant.
Il y a un an. Le Dieselgate, Volkswagen qui a donc, rappelons-le, installé dans ses voitures diesel un logiciel pour donner l'impression que ces voitures étaient moins polluantes qu'elles ne l'étaient. Les consommateurs américains, eux, ont été indemnisés et toujours pas les Européens.
Non, toujours pas les Européens. Alors, on va revenir un petit peu sur pourquoi les Européens, enfin les Américains ont été indemnisés. C'est parce que tout simplement, sur le papier, ils ont convenu en fait avec Volkswagen. L'idée, c'était pour éviter un procès au pénal qui aurait coûté bien plus cher à Volkswagen. Ils se sont entretenus avec le département de la justice américaine et ensemble, ils ont décidé d'un montant global en fait pour prendre en charge ces indemnités. En tout, il y a 500 000 voitures Volkswagen qui ont été vendues aux États-Unis. Donc l'idée, c'est de verser à chacun des propriétaires de voitures 5 000 $, ce qui n'est pas énorme, mais c'est une compensation quand même. Aux États-Unis, c'est plus simple déjà, parce que c'est un pays qui s'adresse à un constructeur, et donc on peut trouver un entendement entre la justice d'un pays, la justice fédérale d'un pays, et donc ce constructeur automobile. En Australie aussi, c'est tout récent, la commission à la concurrence, elle, vient tout juste d'entamer toute cette poursuite judiciaire auprès de Volkswagen pour obtenir également des réparations. Et là, on pense à plusieurs millions de dommages et intérêts. Il y a 57 000 véhicules seulement qui sont concernés, donc ce n'est pas beaucoup.
Ouais. Donc 500 000 aux États-Unis, il y a quelques milliers en Australie. En Europe, il me semble qu'il y a 11 millions de voitures.
11 millions en tout concernées. Et en Europe, 8 millions et demi. Et là, Ignace l'a peut-être compris.
Il faut sortir la calculette, ça risque de faire très cher.
Ça va faire très cher et c'est peut-être aussi là que le bât blesse. Parce qu'en fait, aux États-Unis, la voiture diesel, c'est un marché de niche. Il y a très peu de voitures vendues. En revanche, en Europe, nous, on aime bien les voitures diesel. Ça fait des décennies qu'on roule en diesel. Donc, c'est une habitude qu'il va peut-être falloir changer maintenant. Et donc, c'est un marché énorme. Et donc, éventuellement, si Volkswagen devait payer et s'acquitter, déjà ils vont devoir payer en tout 15 millions de dollars aux États-Unis. Donc, nous, ça se chiffrait à hauteur de plusieurs millions, voire 30 millions, voire même des milliards de dollars. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Ignace le disait, la Commission européenne a tenté ou tente d'obtenir réparation. Le problème, c'est qu'elle n'a pas juridiquement les moyens de le faire. Alors au début, elle a dit ce serait bien que Volkswagen fasse un geste. Mais bien sûr, Volkswagen a dit bien, écoutez, non, le geste, on ne va pas pouvoir le faire. Alors du coup, on a approché le problème d'une autre façon. On s'est dit c'est la consommation. Donc les consommateurs européens ont été floués. Donc la commissaire européenne à la consommation a dit Volkswagen a violé deux des directives. Et notamment sur le fait qu'on a vendu des moteurs qui étaient plus polluants qu'ils ne l'étaient. Et en résultat, Volkswagen a dit « non, je ne suis pas d'accord », d'autant que nous avons pris des mesures en Europe pour récupérer les voitures, corriger ces moteurs et les remettre aux normes.
Bien, Clémence Denavy, les consommateurs européens n'ont finalement aucune chance d'être dédommagés ?
Si ce n'est s'ils entendent dans chacun de leurs pays des actions en justice pour se faire dédommager. En fait, ce qu'il faut savoir, qui est très important, c'est qu'aux États-Unis, sur le contrat de vente de ces voitures, est stipulé le niveau d'émissions polluantes à ne pas dépasser. C'est écrit noir sur blanc. Donc Volkswagen ne pouvait pas dire « Eh bien écoutez, non, on a triché, on n'a pas triché. » Ils étaient bien embêtés, c'est écrit noir sur blanc. En Europe, ce n'est pas le cas.
Merci Clémence Denavy d'être venue nous expliquer tout cela. On remercie évidemment Ignace, à qui nous souhaitons une bonne journée à Abidjan, où il est 8h29. Dans moins d'une minute maintenant, la rédaction pour le dernier point complet sur l'actualité africaine. Et on sera de retour juste après pour notre débat du jour consacré ce matin à la mobilisation des Peuls au Mali. Les Peuls qui se disent de plus en plus victimes d'exactions. Ils sont trop souvent, affirme-t-il, accusés d'être considérés comme des djihadistes. On en parle ensemble évidemment dans 10 minutes.
Priorité santé.